vue d'esprit, Pierre-Yves Moret.
Qui sont les héritiers de Maurice Zindel ? À vue d'esprit s'intéresse cette semaine à celles et ceux qui s'inspirent de ce théologien et philosophe d'origine neuchâteloise et qui est mort il y a tout juste 40 ans. Rencontre avec des individus, des personnes qui se sont imprégnées de sa pensée au point de l'utiliser dans leur vie personnelle mais aussi dans leur profession. Une série d'émissions que nous propose Grégory Roth et qui est réalisée par Jean-Claude Gailly. Bonjour Grégory Roth.
Bonjour.
Nous avons commencé la semaine par rappeler qui était Maurice Zindel et quel était son héritage. C'était avec France-Marie Chauvelot. Et puis nous avons rencontré certains de celles et ceux qui se sentent héritiers de sa pensée.
Oui, alors le jour suivant, mardi, on avait rencontré Christopher Wasserman, chef d'entreprise, qui nous avait aussi fait part de sa vision de l'économie au service de l'humain. Mercredi, il y avait François Rouillet, théologien et accompagnant spirituel au CHUV, avec la question notamment de la souffrance. Hier, nous étions en compagnie de Véronique Lesage, psychologue clinicienne et hypnothérapeute.
Et pour cette dernière émission, vous nous proposez d'entendre quelqu'un qui est journaliste.
Oui, aujourd'hui, je vous propose d'évoquer Maurice Zindel avec Jean-Claude Guibaud, qui est journaliste, mais aussi essayiste, chroniqueur, éditeur et qui a publié une trentaine d'ouvrages. Il a été pendant de nombreuses années un reporter à travers le monde. Il va donc nous partager aussi son regard particulier sur toutes les expériences qu'il a vécues, mais aussi les nourrir de ses réflexions personnelles. Selon Jean-Claude Guibaud, les intuitions de Maurice Zindel sont encore valables pour notre société actuelle. Alors on va en parler avec lui, mais pour commencer, je lui ai demandé s'il avait un passage de Maurice Zindel qui l'avait touché en particulier.
Oh, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de passages. Je me souviens que j'avais été bouleversé. Je pense que j'avais lu ça vers 97-98, ce livre qui s'appelle « Croyez-vous en l'homme », publié aux éditions du Cerf. Mais c'est après que j'ai trouvé le passage qui m'a le plus ému. C'est un passage dans une conférence donnée aux Trappistes en décembre 71 que j'ai eu par l'association des amis de Maurice Zindel à Neuchâtel. Et je vous lis cette chose. Vous verrez à quel point elle est forte et moi elle me bouleverse. Le jugement dernier du christianisme, c'est finalement la qualité de vie qu'il réussit à produire. Tous les programmes, toutes les affiches au néon, toutes les prétentions à la perfection, toutes les récitations du sermon sur la montagne ne riment à rien si la vie n'en est pas la caution, si la vie n'en est pas transformée, si le chrétien n'est pas un être universel, si il n'est pas ouvert à toute âme, à toute civilisation, à toute faim, à toute soif de justice, si la présence d'un chrétien n'ouvre pas un espace de lumière et d'amour. Ça, je trouve bouleversant de ramener le christianisme, la foi, le message évangélique à cette capacité de produire la vie, de produire la vie heureuse, la vie joyeuse et la vie exemplaire qui rend au fond inutile toute apologétique. C'est vrai que ce passage-là, je l'ai lu et relu, je l'avais recopié et ça m'a beaucoup marqué.
Comment il résonne en vous ? C'est-à-dire qu'on a toujours une tentation de s'éparpiller et de quitter quelque part cet élan de vie ?
C'est pas seulement de s'éparpiller, on a toujours la tentation de respecter le dogme en oubliant que l'essentiel c'est de produire en soi un être qui donne envie d'être chrétien, un être qui éclaire le christianisme par son existence, par sa propre présence. C'est-à-dire que on a quelquefois la tentation d'oublier que ce qui compte c'est la vie. La foi, l'évangile, la vertu évangélique doit nous ramener sans cesse au bonheur de la vie. Notre foi ne doit pas être disciplinaire, elle doit pas être répressive, elle doit pas être une morale de l'obligation et du devoir, mais elle doit être une morale de la libération heureuse, quoi. Vous voyez, ça me fait penser à une très belle remarque de Kierkegaard, qui disait, j'avais recopié cette phrase, qui se moquait un peu de la chrétienté ou des chrétientés, et qui disait, il serait peut-être temps de remettre un peu de christianisme dans la chrétienté. La chrétienté, c'est-à-dire l'organisation quasi disciplinaire de la société par le dogme chrétien. C'est pas ça qui m'intéresse. Et c'est contre cela, au fond, que Maurice Zindel luttait et protestait. Je pense que ça lui a valu d'être longtemps mis à l'écart, tenu à l'écart. Mais ça lui vaut aujourd'hui d'être redécouvert. Parce que, vous voyez, je suis sidéré de voir à quel point les textes de lui qui ont été écrits il y a 20 ans ou 30 ans sont, chaque mois qui passe, les rend un peu plus actuels. Chaque année qui passe, leur donne un surcroît d'actualité. Par exemple, je pense à la révolution génétique, à tout ce qui se passe concernant la procréation, etc. Il avait déjà écrit des choses là-dessus. Et je pense que on n'a pas fini de redécouvrir Maurice Zindel.
Vous avez beaucoup écrit sur la thématique de l'espérance. Quelle est cette espérance dont parle Maurice Zindel et qui vous a permis peut-être une lecture nouvelle sur le monde, sur votre travail ?
Je crois que Maurice Zindel, dans ses réflexions, y compris dans ses réflexions théologiques, il est toujours tourné vers l'en avant. J'ai lu peu d'auteurs qui soient aussi peu sensibles à la nostalgie, au regret, au fait de regretter le temps du christianisme puissant, etc. Mais il est toujours tourné vers l'en avant. Je vous donne un exemple. J'avais retrouvé un texte où il essayait de raisonner sur l'origine de l'homme. Vous savez, les débats sur la création humaine, quand est-ce que l'homme a été créé, qu'est-ce qu'il a finalement distingué du singe, etc. Alors, il entrait dans ce vieux débat, cet ancestral, voire ce débat millénaire, de manière ironique en disant, mais au fond, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la façon dont l'homme a été créé. Ce qui est le plus important, c'est de savoir si nous serons encore capables de le créer demain. Parce que l'humanité de l'homme n'est pas héréditaire, elle se transmet pas biologiquement. Elle doit être reconstruite et réinventée à chaque fois. Donc nous ne savons pas si demain, nous serons en tant qu'homme capables de procréer l'homme, de le faire advenir, le grumeau de cellules qu'il est, à le faire devenir pleinement humain. Et ce réflexe constamment de ramener la réflexion vers le futur, vers l'avenir, vers ce qu'il reste à faire, vers ce qui reste possible. Je crois que d'ailleurs qu'il a écrit un texte qui s'appelle « L'homme possible ». Et c'est l'homme de demain possible, c'est pas l'homme d'hier. Ça, je pense que c'est très 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 lié à ce que je considère moi comme l'espérance. Parce que ce que nous appelons, nous, chrétiens, l'espérance, c'est quoi ? C'est notre traduction du messianisme juif, c'est-à-dire demain, Jérusalem. Il n'y a pas de destin qui nous assujettit. Il y a cette belle phrase dans le Talmud qui dit « Il n'y a pas de destin pour Israël ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre destin que celui que nous construisons. Et le monde de demain ne sera pas le produit du destin, ou de la technologie, ou de la finance, mais il sera le produit de notre décision et de notre engagement. C'est ce que les chrétiens appellent l'espérance, c'est-à-dire l'espérance temporelle. L'espérance, c'est pas seulement le fait qu'arrivera un jour le royaume de Dieu, c'est aussi en attendant, c'est clairement exprimé dans saint Paul, par exemple, c'est le monde d'ici-bas dont nous sommes co-responsables. Nos amis protestants disent volontiers, nous sommes les co-lieutenants de Dieu au sujet de l'avenir, et ça, c'est tellement proche et ça consonne tellement bien avec ce qu'écrit Zindel que voilà, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète.
Donc si je résume ce que vous venez de dire, c'est une espérance donc, qui nous projette vers l'avenir, mais qui reste enraciné les pieds sur terre.
Oui, vous savez, c'est l'espérance, c'est pas une gentillesse, c'est pas quelque chose pour faire joli, c'est pas une fleur qu'on s'accroche à la boutonnière. L'espérance, c'est constitutif de notre culture, fondamentalement. Et aujourd'hui, il me semble que nos sociétés modernes sont en train de s'éloigner de cette injonction fondamentale. On donne la préférence au court terme, à l'instantané. Regardez les logiques bancaires maintenant, elles ont raccourci le temps à la nanoseconde ou à la microseconde. Autrement dit, la temporalité humaine tend à être démolie par la technologie. Et je pense que je trouverai facilement des passages de Zindel qui montrent qu'il avait déjà entrevu cela.
Alors justement, par rapport à ça, comment porter ce regard sur notre environnement actuel, avec souvent les nouvelles, les catastrophes actuelles qui arrivent de toutes sortes ? Comment porter un autre regard sur notre société ? Par exemple, une libération personnelle que proposait Zindel, quel est votre avis là-dessus ?
D'abord, vous savez, je pense que... Alors, je vous parle d'un endroit où je suis bien placé pour en subir le désagrément. Je travaille à Saint-Germain-des-Prés, vous connaissez ce petit village à Paris, qui n'est pas très grand. Et à Saint-Germain-des-Prés, comment vous expliquer? Pour faire sérieux, il faut être pessimiste. C'est-à-dire, l'espérance, ça n'est pas tendance à Saint-Germain-des-Prés. Ça n'est pas très à la mode. Si vous voulez être pris au sérieux, il faut annoncer des catastrophes. Et il faut entrer ou accepter d'être dans ce que Chesterton, un autre écrivain chrétien, appelait l'église du pessimisme. Je peux vous dire que l'église du pessimisme, évidemment c'est une plaisanterie, elle est à Saint-Germain-des-Prés. Autrement dit, cette volupté du pessimisme que je ne supporte pas, contre laquelle je m'insurge sans cesse. Parce que c'est un pessimisme mondain. J'ai passé 25 ans de ma vie à couvrir des situations où les peuples étaient dans la tragédie, dans la mort, dans la survie. Et malgré cela, je les trouvais plus joyeux, plus dans l'espérance que nous. Je retrouvais le pessimisme quand je rentrais à Paris, quand je rentrais en France. Donc il y a une espèce d'immoralité du pessimisme que dénonçait d'ailleurs Bernanos, à sa manière fulgurante et quelquefois violente, quand Bernanos disait « un chrétien triste est un imposteur ». Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Le chrétien qui ratiocine et qui se lamente est un imposteur. Même dans les situations dramatiques, parce que nos sociétés deviennent compétitives, deviennent agressives, deviennent inégalitaires, deviennent injustes, deviennent méchantes. Regardez le nombre de chômeurs, regardez les inégalités qui explosent, regardez la précarité qui gagne. Donc nous sommes dans des situations difficiles, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut s'en remettre à l'espérance et qu'il faut être dans l'espérance combative. Tout ça, en effet, vient en grande partie de Maurice Zindel.
Lui qui parle aussi de détachement, des fois de se détacher de ces déterminismes, qui en l'occurrence, là pourrait être le déterminisme du pessimisme dans le cas que vous évoquiez.
Oui.
Comment acquérir une forme de détachement, ou on pourrait même parler de compassion, sur notre société ?
Oui, il prône le détachement par rapport à soi-même, Maurice Zindel, par rapport à son propre petit égoïsme, par rapport à ses propres petits intérêts. Et il cite la fameuse expression de Rimbaud « je est un autre ». C'est-à-dire, il faut être capable de sortir de soi pour se préoccuper un peu moins de soi-même et un peu plus de l'autre qui est en face de nous et à qui il faut que nous apportions précisément notre joie. Notre joie, le vibrato qui doit nous faire chanter, si j'ose dire, c'est pas pour nous, c'est aussi pour l'autre. Et donc, quand Maurice Zindel parle de retrait, de détachement, ça n'est pas au sens égoïste du terme, ça n'est pas au sens du souci de soi, ça n'est pas au sens bouddhiste du terme. Je m'exclus, je me retranche du monde pour être tranquille. Non, c'est au contraire, je me retranche de mes petits égoïsmes que je remets à leur place. J'ai trouvé des citations qui disent cela. Je vous en cite une, par exemple, c'est dans « Croyez-vous en l'homme ?»« Je connais désormais la mesure de l'homme. Il n'existe que dans cet échange où je est un autre. Il n'est libre que dans cette disponibilité foncière envers l'autre silencieux, qui écarte toute limite. Il n'est créateur qu'en devenant pour autrui le ferment discret d'une même libération. » Vous comprenez, quand il parle du détachement, voilà ce qu'il veut dire. C'est le contraire du repli sur soi. Et il ajoute d'ailleurs dans la même phrase, « L'homme, il n'est digne de lui-même qu'en laissant transparaître la vie infinie qui fait de lui une source et une fin. » Pour l'autre, évidemment.
Comment, par rapport à ça, se détacher de soi, et comment devenir acteur et pas seulement spectateur de ce qui nous arrive aussi dans notre société. Je reviens sur la société, les réflexions qu'on porte aujourd'hui, que ce soit pour l'identité, la manière de devoir se comporter, mais oui, comment peut-être être acteur?
Il y a quelqu'un qui a une très belle réponse à votre question et que je fais volontiers mienne. Ce quelqu'un, vous en connaissez certainement le nom, c'est Pierre Rabhi. C'est quelqu'un dont la parole est incroyablement écoutée. Alors, pour répondre à votre question, Pierre Rabhi avait un jour raconté une fable d'origine brésilienne. Il y a un grand incendie dans la forêt amazonienne. Un gigantesque incendie. Les arbres flambent avec des flammes de 30 ou 40 mètres de haut. Et naturellement, tous les animaux de la forêt essaient de s'échapper à toute patte, si j'ose dire, pour ne pas mourir grillés. Et parmi les animaux qui essaient de courir pour échapper au feu, il y a un tamanoir. Vous savez, le tamanoir n'arrive pas à courir très vite parce qu'il est lourd, il est gros. Alors il essaie de tout ce qu'il fait. Et puis à un moment donné, pour voir où en est l'incendie derrière lui, il se tourne. Et qu'est-ce qu'il voit derrière lui? Il voit un petit colibri qui fait 3 cm de long. Et le petit colibri, au lieu de s'enfuir, il va dans une flaque d'eau, il prend une goutte d'eau, il la jette dans l'incendie. Il retourne dans la flaque, il prend une goutte d'eau, il la jette dans l'incendie. Et puis, ainsi de suite. Et le tamanoir, avec beaucoup de méchanceté, se tourne et lui dit « Pauvre imbécile, tu crois pas que tu vas éteindre l'incendie comme ça ?» Et il y a le petit colibri qui, sans se démonter, répond « Je sais bien, mais je fais ma part. » Et vous savez, l'idée de faire sa part, où on est, dans son métier, dans son quartier, dans son immeuble, dans sa famille, faire sa part, c'est tout d'un coup, en effet, essayer d'être loyalement et joyeusement chrétien à sa façon et essayer, chaque fois qu'on le peut, d'intervenir sur les choses, de dire non, de s'opposer, de créer, de révolter, de suggérer une idée, de suggérer une résistance. Autrement dit, essayer d'être chacun au minimum un colibri. Je vous assure que nous sommes 65 millions de Français. S'il y avait ne serait-ce que 50 millions de colibris, la situation de la France serait déjà très largement améliorée.
Est-ce qu'à votre sens, il y a une personne, une figure actuelle, un théologien, un philosophe, qui vous fait penser à un prolongement de la pensée de Maurice Zindel ?
Comment vous expliquer ? J'ai la faiblesse de trouver Maurice Zindel exemplaire de ce que nous, chrétiens, avons vécu depuis 2000 ans. Là, pardonnez-moi de faire cette ellipse, je veux résumer les choses à grands traits, mais au fond, depuis 2000 ans, comment le message chrétien a-t-il été transmis ? Il a été transmis de manière paradoxale, je parle des catholiques évidemment, parce que au fond, il a fallu deux choses contradictoires pour le transmettre. Il a fallu une église, une institution, l'église catholique, qui comme toutes les institutions a tendance à se scléroser, à défendre ses propres intérêts d'institution, et donc à oublier au fond les braises brûlantes du message dont elle est porteuse. Et puis il a fallu continuellement, de siècle en siècle, des mystiques, des saints, des dissidents. Et il s'est presque toujours produit la même chose. Au début, ces dissidents, l'Église a été sur le point de les excommunier. Regardez, ça a même été le cas de saint François d'Assise. Sa prière aux créatures, c'était jugé très peu chrétien à l'époque. C'était même très contestable par les docteurs de la foi. Donc saint François d'Assise a été presque excommunié. Ça a été presque le cas pour Thérèse d'Avila, pour saint Jean de la Croix, pour Maître Eckhart, etc. Donc ces dissidents-là, n'empêche que c'est eux qui ont transmis le message. Et au bout de 2 ou 3 siècles, en général, l'Église en a fini par en faire des saints. Donc ils sont passés du statut d'excommunié ou de presque excommunié au statut de la sainteté. Ce dont Bernanos s'amusait beaucoup dans le journal d'un curé de campagne, un de ses meilleurs livres. Alors, je pense que aujourd'hui encore, dans une église qui a tendance à se scléroser, c'est un peu moins vrai depuis que nous avons ce nouveau pape François, qui essaie de, si j'ose dire, qui essaie de secouer la poussière, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a encore aujourd'hui de ces dissidents, de ces gens qui transmettent le message comme ça, aux marges de l'institution. Et Zindel fait partie de cela. C'est d'ailleurs, il n'a pas été excommunié, mais c'est pas pour rien qu'il a été tenu en lisière par l'Église. Quand j'avais été à Neuchâtel, je me souviens qu'à l'époque, la présidente de l'association des amis de Maurice Zindel m'avait expliqué que quand elle était écolière, les livres de Maurice Zindel étaient interdits de lecture. Même chez elle, ses parents lui interdisaient de lire Maurice Zindel parce que ça sentait le sourd, parce que c'était dérangeant. Et vous voyez que, au fond, voilà, Maurice Zindel était tenu à l'écart. Il aura, à part l'amitié de Paul VI, qu'il a invité à faire une retraite à Rome, mais il a fini sa vie comme un petit curé, éloigné. Il a été mis en marge, quoi, comme beaucoup avant lui au cours des siècles. Et je connais d'autres personnes que j'admire beaucoup. Je pense à Maurice Bellet, qui est un théologien français et qui fait des livres dérangeants. Et je pense qu'en même temps, ce sont des livres qui ont la capacité de ramener vers la foi beaucoup de chrétiens, un peu découragés par l'Église. Et Maurice Bellet, voilà, je le compare assez à Maurice Zindel. C'est quelqu'un de joyeux, de très attaché à la parole évangélique et qui est tenu à l'écart. On ne parle guère de lui. Donc il a eu une influence souterraine importante et je pense que demain, nous lirons encore et pour longtemps Maurice Bellet. Je les mets volontiers tous les deux dans la même catégorie, joyeuse.
Est-ce que c'est finalement aussi ce christianisme des marges, comme vous disiez, ce christianisme de lisière ou ces théologiens qui vous séduit aussi dans leur pensée?
C'est-à-dire que je pense, comment vous dire, que nous avons besoin des deux. C'est-à-dire que nous avons besoin de ces marges. Il y a une belle phrase que j'avais recopiée de Michel Foucault, qui pourtant n'était pas chrétien, mais qui était un philosophe que les gens de ma génération ont beaucoup lu, qui disait « l'essentiel se passe toujours dans les marges. C'est jamais au centre. » Mais en même temps, nous avons besoin de l'institution. Si l'institution n'avait pas été là, pendant 2000 ans, il n'y aurait pas eu de message évangélique du tout. Mais si il n'y avait eu que l'institution, sans les chrétiens des marges, sans les mystiques et tout ça, le message aurait été tellement sclérosé que le message lui-même aurait disparu. Donc, pour employer une terminologie très à la mode, une terminologie informatique, nous avons besoin de la messagerie, qui est l'Église catholique, et du message, qui est porté le plus souvent par les mystiques. Il nous faut les deux.
Si Maurice Zindel est encore vivant, aujourd'hui, de quoi aimeriez-vous parler avec lui ?
J'aimerais parler avec lui de deux choses, quoi, c'est-à-dire du message, de cette question, si nous sommes, comme je le suis, ouverts au dialogue avec l'autre, c'est-à-dire avec les religions, c'est-à-dire avec l'islam, pour parler de quelque chose d'actuel. Je suis très attentif au dialogue avec l'islam et j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je m'efforce de dialoguer. Donc je suis ouvert, mais en même temps, si je suis chrétien, c'est bien que je pense que ma foi chrétienne ou le christianisme a quelque chose d'incomparable, a quelque chose de spécifique. Je suis convaincu que le message évangélique a fendu en deux l'histoire du monde, qu'il y a eu un avant et qu'il y a un après. Et si je pense cela, comment puis-je m'accommoder sans tomber dans le relativisme du dialogue avec l'autre? C'est une immense question, infiniment plus difficile à résoudre que l'on croit. J'ai été récemment à Oran, en Algérie, puisque je suis né en Algérie, et j'ai été invité par l'évêque d'Oran, qui m'a fait cet immense privilège, cet immense cadeau. Il m'a donné pendant une semaine la chambre de Pierre Clavry, qui est l'ancien évêque d'Oran, qui a été assassiné par les terroristes musulmans en 1996. Or, j'ai toujours gardé en tête cette phrase magnifique de Pierre Clavry, qu'il avait prononcé peu de temps au fond avant de mourir. Il disait « Le vrai dialogue ne peut exister que si j'ai la conviction que l'autre est peut-être porteur d'une vérité qui me manque. » Et ça, c'est une phrase qui m'a bouleversé, parce que ça veut dire que il faut que j'accepte de m'ouvrir à l'autre jusqu'à la possibilité d'apprendre de lui quelque chose qui me manquait et qui ne va pas démentir ma foi, mais va l'enrichir. Et alors évidemment, c'est une phrase facile à écrire, c'est pas souvent facile à vivre, mais j'aurais aimé beaucoup discuter de cela avec Maurice Zindel, parce qu'il a vécu dans une époque où nos sociétés n'étaient pas encore multiconfessionnelles comme elles le sont devenues, où nous n'étions pas affrontés comme ça avec la conviction de l'islam, avec la présence massive de l'islam, pour le meilleur et pour le pire, dans nos sociétés. Donc j'aurais beaucoup aimé parler de cela avec lui. Et puis évidemment, j'aurais parlé aussi, parce que c'est un sujet qui m'a fait beaucoup écrire, des révolutions génétiques, quoi, cette transformation de l'homme que nous propose et que met à notre disposition l'ingénierie génétique. Nous sommes devenus maîtres de la procréation et de la fabrication de l'homme. Est-ce qu'on peut accepter que l'homme ne soit plus créé, mais fabriqué, au sens marchand et technologique du terme? Je sais qu'il aurait été horrifié de voir jusqu'où étaient allées les choses qu'il avait pressenties au début des années 70. Disons que voilà les deux thèmes dont j'aurais discuté passionnément avec lui.
C'était Jean-Claude Guibaud, journaliste, essayiste et chroniqueur à votre micro, Grégory Roth. Alors nous sommes au terme de cette semaine d'émission. Jean-Claude Guibaud commençait cette émission par une citation de Maurice Zindel dans laquelle il était question de vie en particulier. Ça s'est entendu chez différents interlocuteurs de votre semaine d'émission, cet intérêt dans la pensée de Maurice Zindel sur la vie, sur le fait d'être vivant et de réaliser d'être vivant avant que de mourir. Est-ce qu'au fond, c'est là qu'il faudrait comprendre qu'il y a un héritage particulier de Maurice Zindel, c'est réaliser qu'on est vivant?
Oui, je pense et on l'a entendu à travers les différents interlocuteurs, on a tendance à être des fois finalement vivant, oui, mais pas vraiment à se rendre compte de ce qu'on fait, être dans l'activisme, être dans les choses automatiques et à ne pas suffisamment réfléchir en profondeur sur notre propre vie. Et ces réflexions-là, elles ont été nourries par les personnes qu'on a rencontrées. Et je pense que ça fait partie justement d'une forme de transformation et de sortir de ces déterminismes qui pourraient nous, comme le dit Maurice Zindel, des déterminismes qui pourraient quelque part nous bloquer sur le fait d'être mort-vivant. Oui.
Pour conclure, Grégory Roth, si je vous pose une question plus personnelle, vous, au terme de cette semaine d'émission, qu'est-ce qui vous reste personnellement?
Moi, c'est l'actualité de ses propos, justement, dire qu'il est, comme le disait d'ailleurs Jean-Claude Guibaud tout à l'heure, il aurait le souhait de s'entretenir avec Maurice Zindel sur des thématiques tout à fait actuelles, comme le génie génétique ou le dialogue interreligieux. À mon avis, la liste pourrait aussi s'allonger. Nous aurons pu d'ailleurs parler de Maurice Zindel et son intérêt pour l'art, pour la culture, pour le dialogue œcuménique. Mais s'il faut garder quelque chose en mémoire, c'est vraiment cette capacité de s'ouvrir sur tout ce qui faisait son époque. Et c'est justement, à mon avis, ce regard émerveillé, mais aussi à la fois lucide sur son époque, qui lui a à plusieurs reprises permis d'être en avant sur son temps. Ou en tout cas, on le définit comme avant-gardiste. Et moi, la question que j'aimerais me poser, c'est justement, ouais, quel regard aujourd'hui je pourrais poser sur le monde qui m'entoure, ce regard qui permettrait d'être tourné vers l'avenir, finalement.
Merci beaucoup, Grégory Roth, en tout cas, pour cette série d'émissions. Et puis, ces découvertes et ces interrogations sur l'héritage de la pensée de Maurice Zindel. Merci également à Jean-Claude Gailly pour la réalisation de cette série d'émissions, ainsi qu'à nos collègues de notre studio de Paris qui nous ont permis de faire des duplex. Merci à Diane Dufault, notre assistante de production, à nos collègues qui s'occupent de notre page Internet également. Et puis, on peut le rappeler, l'adresse de cette page Internet, rts.ch/esprit. Vous y avez placé, Grégory, des références complémentaires, biographiques et bibliographiques, ainsi que des liens sur des associations des amis de Maurice Zindel en Suisse et en France, rts.ch/esprit. Dès lundi, notez-le, A Vue d'Esprit va entamer une grande série d'émissions spéciales consacrées aux croisades. Ce sera 5 semaines spéciales d'émissions que nous vous proposons sur la thématique des croisades, au regard de l'histoire, mais également de l'actualité, des regards croisés Orient-Occident, pour savoir comment les croisades aujourd'hui sont quelque chose de conscient ou non dans nos esprits ici en Occident, et comment la mémoire des croisades joue aussi un rôle en Orient, notamment dans les pays du monde musulman, et notamment aussi dans les mouvements djihadistes, salafistes d'aujourd'hui. Ce sera donc dès lundi à 16h30 de A Vue d'Esprit. D'ici là, nous vous souhaitons une très belle suite de journée à l'écoute d'Espace 2. C'est la fin de cette semaine à Vue d'Esprit. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons donc lundi dès 16h30 pour cette grande série d'émissions que nous consacrons aux croisades. Et si vous souhaitez en savoir plus, consultez déjà le portail rtsreligion.ch, portail qui regroupe toutes nos émissions radio et télé pour RTS Religion et qui vous donnera quelques indications. Dans quelques minutes pour l'heure sur Espace 2, c'est Daniel Rebella, dernier entendu. Belle suite de journée, il est 17h.